Bonjour, c'est un message pour Monsieur Stigrist. Pourriez-vous consacrer une émission à l'auteur Mireille Soupio, qui écrit toujours de très jolis romans, toujours des belles histoires d'amour, avec des hommes très très beaux, très musclés. Voilà, merci.
Frédéric, je tiens à saluer ton courage, ton professionnalisme et ton abnégation pour cette émission sur Charmed, ayant moi-même eu à voir, revoir, re-revoir plusieurs épisodes pour faire plaisir à mon épouse et mes filles. Voilà, bravo, merci.
Frédéric, bonjour. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, l'émission sur Goldorak ?
Mais justement, j'appelle Allô, Marie-Elisabeth, c'est Christiane. Écoute, le père Romuald a laissé 10 euros dans la sacristie, sous la petite boîte à café, pour que j'achète, tu sais, des petites courses pour samedi, là, la fête paroissiale. Alors, évidemment, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc, en fait, demain, tu prends les 10 euros qu'il y a sous la boîte à café, tu sais, en haut, là, et tu vas acheter les saucisses cocktails pour la fête de samedi, hein. Et puis, appelle-moi. Parce que je ne comprends pas trop, tu ne me rappelles pas.
Sinon, je me disais qu'en sujet intéressant, vous pourriez parler peut-être du manga Cowboy Bebop par rapport au Space Opera, ou alors parler de transhumanisme au travers de la saga Deus Ex, parce que je pense que ça peut être un sujet très intéressant et puis assez en rapport avec tout ce qui se passe aujourd'hui.
Est-ce que vous pourriez parler de Pixar, ou bien de DreamWorks, ou bien de Jojo Bizarre Adventure, de My Little Pony, de Albator, de Warhammer 40 000? En fait, non. Continuez de faire ce que vous faites. Je sais très bien que vous allez finir par parler de tous les thèmes que j'ai envie d'entendre. J'adore ce que vous faites. Bisous!
To be or not to be, not to be.
C'est qui ton acteur préféré ? Quand tu te piques d'aimer le cinéma, il y a toujours un moment où la conversation finit par arriver à cette question : qui est ton acteur ou ton actrice préférée ? Alors j'ai fait un sondage sur mon entourage et en numéro 1, semble-t-il, c'est Leonardo DiCaprio qui tire son épingle du jeu. Et c'est normal ! Leonardo, c'est l'incarnation même de l'acteur total, celui qui va passer 3 mois dans une forêt à manger des ragondins, à faire Grizzly LV2, tout en buvant son pipi afin de se préparer à un rôle. Il est de cette école Actor Studio qui fait qu'on se donne corps et âme à son métier. Léo, il doit jouer un zombie, il meurt pendant 4 mois, il ressuscite la veille du tournage après avoir écrit un essai sur la psychologie des morts vivants. Pourtant, moi j'avoue, ça n'est pas mon acteur préféré. Alors attention, j'adore Leonardo DiCaprio, mais je n'oublie jamais que je suis en train de regarder Léo qui tente en faisant beaucoup d'efforts de me faire oublier qu'il est Léo. Ça me rappelle une anecdote qu'on se plaît à raconter en cours de théâtre sur Marathon Man. J'ignore si elle est réelle ou si c'est une légende urbaine, mais toujours est-il qu'elle résume bien ce que je veux dire. Dustin Hoffman doit tourner une scène de course. Il part courir 2 heures avant le tournage, histoire d'être au plus près de la fatigue de son personnage. Laurence Olivier, qui lui donne la réplique, reste dans sa caravane. Au moment où le réalisateur crie « Action !», Laurence Olivier est en sueur. Lorsque la prise s'achève, Dustin Hoffman, interloqué, demande à Sir Laurence Olivier comment il a fait. Et ce dernier aurait simplement répondu « J'ai joué ». Voilà, savoir jouer ce qu'on n'a pas vécu. Pour moi, c'est ça un grand comédien. Et à la question « Qui est donc mon joueur préféré ?», eh bien, c'est celui à qui je consacre cette émission aujourd'hui, Tom Hanks.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Before I met you, I was in Little League.
Ben voilà, avant de te connaître, je jouais chez les cadets.
I was in Little League and I rode my bike to school and I...
Oui, dans l'équipe cadette. J'allais à l'école avec mon vélo et je me marrais avec mes potes. On déconnait ensemble.
Joss, j'y comprends rien. Voyons de quoi tu parles.
I want to go home.
Je veux rentrer.
I miss my family, Susan, and I want to go home.
Ma famille me manque. Je rentre à la maison.
Oh my God, you're married.
Salaud, tu es marié.
Non.
Non.
You're not?
Ah non?
Non.
Non.
I'm a child.
Je suis un gamin.
What?
Quoi?
I'm a child, Susan.
Big, Forrest Gump, Philadelphia, Il faut sauver le soldat Ryan, La ligne verte, Arrête-moi si tu peux, Les sentiers de la perdition, Toy Story et tellement d'autres. Autant de films qui sont entrés dans la légende portés par un acteur au physique de Monsieur Tout-le-Monde, Tom Hanks. En 2012, selon Wikipédia, les films auxquels il a participé ont généré plus de 4,2 milliards de dollars au box-office américain et plus de 8,5 milliards dans le monde, ce qui en fait l'acteur le plus prolifique de l'histoire du cinéma en matière de succès commerciaux. Pas DiCaprio, pas Pacino, Tom Hanks. Steven Spielberg, Robert Zemeckis, les frères Coen, Clint Eastwood, autant de réalisateurs qui ont su trouver en Tom Hanks le vecteur idéal pour réaliser certains de leurs plus beaux films. Pour revenir sur l'incroyable parcours de cet acteur, je suis entouré par Mélanie Toubaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes monteuse vidéo, fondatrice de l'association Les Internets, qui valorise la création féminine sur
co-fondatrice.
YouTube. Co-fondatrice. Oui, co-fondatrice. Il y en a d'autres. Alors, donnez le nom des autres, comme ça.
Marie-Camille Théron, Amélie Van Verberg, Léa Bordier, qui est réalisatrice de documentaire actuellement. On est... Et ben une voilà. Petite flopée.
Voilà, on leur passe le bonjour. Et vous avez votre propre chaîne YouTube sur le cinéma, La Manie du Cinéma.
C'est ça.
Avec nous également Michael Genman. Bonjour.
Genam. Bonjour.
Genam. Oui. Vous êtes rédacteur en chef adjoint des Fiches du Cinéma.
Exactement.
Et enfin, Dedo, mon comparse, le co-animateur non officiel, l'homme qui vient quand il a envie, comme ça. Bonjour.
Hello.
Auteur, monteur, non pas monteur, si, co-monteur aussi. Ouais, carleur, comédien, humoriste, co-créateur de l'émission sur YouTube, L'Histoire racontée par des chaussettes.
Oui.
C'est bon ?
C'est bon, c'est tout bon.
On sait bon. Ensemble, on reviendra sur l'incroyable carrière de Tom Hanks, de ses débuts modestes dans des comédies des années 80 au cime du succès et des récompenses des années 90 à aujourd'hui. On tentera de comprendre ce qui explique le succès de cet homme. On parlera des réalisateurs qui ont jalonné son parcours et de son incapacité quasi mystique à interpréter des rôles de méchants. Parler de Tom Hanks, c'est parler d'un gros morceau de cinéma. Une histoire qui, comme tous les contes de fées, a commencé avec une sirène, avec Splash.
I let Harry take those chains off you.
Si je dis à Harry de te retirer tes chaînes,
you're gonna be nice.
Tu seras bien sage.
Your name is John Coffey.
Tu t'appelles John Coffey?
Yes, sir, boss.
Oui, patron.
Like a drink.
Comme le café.
Only not spelled the same.
Sauf que c'est pas écrit pareil.
My name is Paul Edgecombe.
Moi, je m'appelle Paul Edgecombe.
If I'm not here, you can ask for Mr. Terwilliger, Mr. Howell, or Mr. Stanton.
Si je ne suis pas là, tu t'adresses à Monsieur Terwilliger, Monsieur Howell ou Monsieur Stanton, tous trois ici présents.
Questions.
Tu as des questions?
Do you leave the light on after bedtime?
Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée.
Because I get a little scared in the dark sometimes, if it's a strange place.
C'est que dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur dans les endroits que je connais pas.
Stays. Pretty bright around here all night long.
Ça reste pas mal éclairé ici toute la nuit.
We always keep a few lights burning out in the corridor.
On laisse toujours plusieurs lampes éclairées dans le couloir.
Corridor.
Couloir.
Right out there.
Ouais, juste là.
Bon, alors vous l'aurez deviné, c'était pas un extrait de Splash, hein, c'était un extrait de La Ligne Verte. Ou alors la sirène, elle a vraiment changé de physique. C'est La Ligne Verte de Franck Darabont. Alors voilà, on va parler d'un acteur qui a une carrière incroyable, étalée sur plusieurs décennies. Et Michael Genam, oui. D'où vient Tom Hanks?
Alors, on va commencer en force. Il vient déjà de la comédie, en fait. Les années 80, sa filmographie, ce sont essentiellement des comédies. Son deuxième film, c'est justement une histoire de sirène, c'est Splash, premier carton. Et ensuite, il va enchaîner des comédies jusqu'au début des années 90. À partir de ce moment-là, il opère un virage un peu plus dramatique, en s'essayant rôle sérieux avec Le Bûcher des Vanités. C'est un flop. À côté de ça, il continue les comédies romantiques. Il y a le carton de Nuit Blanche à Seattle, la même année que Philadelphia. Il gagne l'Oscar avec Philadelphia et on découvre finalement, enfin le grand public découvre un acteur qui a une palette de jeux incroyable, qui a une sensibilité et surtout qui crée une empathie avec le public, une empathie quasiment instantanée. Dans les comédies dans lesquelles il jouait, il interprétait un peu le genre idéal ou un personnage à qui on fait instantanément confiance. C'est d'où le succès de Big. On imagine tout à fait que c'est un personnage.
Alors,
c'est un
pour
enfant.
Les auditeurs, Big, oui. En fait, c'est un enfant qui se retrouve dans le corps d'un adulte. Cet adulte est joué par Tom Hanks, mais lui, c'est un gamin, donc et qui vit une histoire d'amour avec une adulte, alors qu'il a la psychologie d'un enfant. Il se met à travailler dans un magasin de jouets, et forcément, il sait quoi mettre en valeur parce que il est bien placé pour le savoir. Et un film magnifique.
Oui, effectivement, il y a un très beau film sur l'enfance, en fait, parce que ça parle de ça. C'est un enfant qui en a assez de pas être pris au sérieux, qui rêve d'être adulte et qui, une fois adulte, veut continuer à vivre comme un enfant. En fait, il veut continuer de profiter. C'est vraiment un très bel éloge, justement, à la jeunesse et au fait d'arriver à conserver son âme d'enfant.
Et Mélanie Toubaud, vous avez découvert Tom Hanks à quelle occasion? C'est quel film qui vous a marqué en vous disant « Là, je suis en train de regarder un acteur qui ne ressemble pas aux autres ?»
Bah, moi, en fait, j'ai découvert le Terminal assez jeune. Vraiment, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et en fait, c'est un peu le premier film d'adulte que j'ai l'impression d'avoir vu.
C'est... De Steven Spielberg, donc.
Ouais, de Steven Spielberg, parce que
jusque-là... On raconte rapidement l'histoire.
Oui, c'est donc un personnage qui est joué par Tom Hanks, qui est dans un aéroport. Et en fait, à l'aéroport, il découvre que son pays n'existe plus à cause de guerre politique. Et donc, il est bloqué dans le terminal de l'aéroport pendant... Je sais plus, c'était 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il va vivre dans cet aéroport et rencontrer une hôtesse de l'air avec
Catherine Zeta-Jones.
Voilà, avec qui il va essayer de construire quelque chose et elle va essayer de l'aider un petit peu à s'en sortir. Et effectivement, moi, ce film, c'est le tout premier film, oui, d'adulte, parce que ça parle de guerre, d'isolement, de solitude et en même temps d'amour. Et je me souviendrai toujours, en fait, de ce regard qu'a Tom Hanks au moment où justement il court dans le terminal parce qu'il voit sur les écrans que bah, son pays n'existe plus, qu'il est en train de perdre tout ce qu'il avait, il perd sa nationalité, il perd son identité. Et le regard qu'il a, un regard plein de larmes et plein d'intensité, en fait, je pense que ça le rend plus empathique que n'importe quel acteur pour ça, parce qu'on dit déjà c'est inspiré d'une histoire vraie, et mon Dieu, enfin, ça touche au plus profond de soi, et pour ça Tom Hanks est un des meilleurs acteurs dans ce genre de rôle.
Dedo, la rencontre avec Tom Hanks, parce que c'est vrai qu'en plus particulièrement pour vous, Dedo, quand on connaît l'image, voilà, de métalleux fan de John Carpenter et tout ça, et tout d'un coup et vous voir spontanément dire oh Tom Hanks, j'adore, on se dit what?
Ben non, mais parce que je suis déjà avant tout comédien et que on est obligé de respecter la carrière et le don de jeu que possède Tom Hanks. C'est d'ailleurs intéressant, tu parles de Catch Me If You Can, attrape-moi si tu peux, et on sent à quel point justement il maîtrise la comédie par moment, parce que c'est un drama, mais c'est aussi une comédie dans le même temps. Il maîtrise vraiment très très bien le rythme, le côté justement drôle de ce personnage-là, et il y en a énormément des exemples comme ça. Moi, c'est vraiment un peu comme tout le monde, je pense, en tout cas de ma génération, c'est Big qui m'a fait rentrer dedans. Dans la Tom Hanks pas mania, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a toujours, je trouve, dans sa carrière joué des personnages qui s'adaptaient. En fait, c'est quelqu'un qui gère très bien l'adaptation. On s'en rend compte dans Big, voilà, s'adapter au monde adulte, dans Seul au monde, s'adapter justement à l'adversité, se retrouver seul et essayer de survivre. Forrest Gump, c'est s'adapter face au handicap, et c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ça justement dans le jeu. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec un acteur qui a une telle carrière, qui a enchaîné deux Oscars coup sur coup, ce qui est rarement arrivé.
Et c'est le deuxième seulement.
Ouais, après Spencer Tracy, ouais. Et qui a vraiment voilà, une maestria, et qui... C'est le boy next door, contrairement à la girl next door, dans lequel tout le monde se reconnaît et tout le monde a envie d'être son pote. Et ça, c'est une vraie force en tant que comédien.
Alors, on va continuer de parler de Tom Hanks, mais avant toute chose, on va évidemment écouter Bruce Springsteen avec Streets of Philadelphia. Cette émission est réalisée par Céline Hila. À la programmation musicale, Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé cette émission, aidée par Aurore Mancip, et à la technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Florent Bujon. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I. and my clothes don't fit me no more. I want a thousand miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
C'était Bruce Springsteen avec la BO de Philadelphia dans Blockbuster sur France Inter.
Écoute. J'apporte le malheur à tous ceux qui m'aiment. Oh, oh, ce solo de violoncelle. C'est au sein de ce malheur que l'amour m'est apparu. Une voix s'éleva pleine d'harmonie. Elle dit « Vis encore ». Je suis la vie. Le ciel est dans tes yeux.
C'était un extrait de Philadelphia de Jonathan Demme en 1993 et on entendait Tom Hanks doublé en français par Jean-Philippe Puy-Martin. Donc Philadelphia, c'est vraiment le rôle qui a complètement changé le regard qu'on pouvait porter sur Tom Hanks.
Oui, totalement.
Mathieu Gallam.
Évidemment, ça va lui faire obtenir son premier Oscar, mais c'est surtout le rôle où il s'investit physiquement le plus pour la première fois, avec une perte de poids. Et ça devrait être un simple film à message, et avec lui, et enfin avec la collaboration qu'il a avec Jonathan Demme, justement, ça devient un pur mélodrame qui marque son époque et qui est encore extrêmement extrêmement puissant aujourd'hui. On est sur le récit, pour un peu résumer le film, c'est le récit d'une injustice. C'est un jeune avocat très ambitieux qui est homosexuel. Nous sommes en 93, et qui découvre qu'il souffre du sida. Et en fait, son grand cabinet à Philadelphie le licencie. Soi-disant pour faute grave. Et il est convaincu que c'est parce que il avait une lésion au visage apparente et qu'on l'a licencié parce qu'il était malade du sida.
Et moi, je sais que quand j'ai vu le film au cinéma, c'était la première fois, ma première rencontre, non seulement avec le thème de l'homosexualité, et alors. J'avais déjà vu La Cage aux Folles ou d'autres de films comme ça, mais ça a été vraiment la première fois que le cinéma m'a amené à changer, à modifier une perception du monde. Et Philadelphia a été très très important pour ça, en fait, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte de ce que vivaient certains homosexuels depuis plusieurs années, qui devaient cacher leur maladie, la discrimination dont ils étaient l'objet. On avait aussi une histoire d'amour entre deux hommes qui était superbement jouée, sincère, etc. Ça a été plus qu'un film, en fait. Ça a été vraiment une sorte de coup de poing aussi, presque social.
Oui, d'autant plus que le second rôle du film est interprété par Daniel Washington, qui est un avocat un peu plus roublard, mais qui ne roule pas sur l'or, et qui est assez ouvertement homophobe. Et qui va effectivement totalement sympathiser avec le personnage de Tom Hanks l'humanité qu'il dégage, en fait, et la sincérité de son combat. Et il y a effectivement un impact historique de ce film sur effectivement la question du sida et la question de la représentation de l'homosexualité à l'écran, qui était souvent effectivement cantonné à de pures caricatures, en fait. C'est triste à dire. Et à partir de là, ce sont des ce sont des personnages comme des autres, en fait. Ils peuvent tenir le premier rôle. Ce film en est la preuve. Pour les studios, ça leur a peut-être un peu ouvert les yeux. Et surtout, pour le grand public, c'est cette prestation de Tom Hanks qui reste effectivement le plus, tellement elle est mémorable, et parce qu'on est vraiment pris aux tripes par son jeu, en fait, par l'émotion qu'il dégage constamment.
Et alors, on l'a pas dit, mais c'est quelqu'un qui est issu du théâtre. Avant d'être un acteur de cinéma, oui, c'est un acteur de théâtre, et son professeur de théâtre, qui l'a initié au théâtre au lycée, a eu un rôle déterminant pour lui, Dedo.
Oui, tout à fait. Oui, c'est quelqu'un qui vient du théâtre. C'est vrai qu'il n'est pas forcément passé par les parcours classiques de l'acteur studio ou de Stanislavski. Et on a ressenti ça, d'ailleurs, tu le disais hors antenne, tu peux
Mélanie
le redire,
Toubeau,
par rapport à...
À son professeur, ouais. Oui, c'est que justement, en fait, quand il a reçu, donc c'était pour son Oscar pour Philadelphia, justement,
Philadelphia, ouais.
Quand il a fait son discours pour son Oscar Philadelphia en 94, il a remercié son professeur de théâtre, et en fait, il y avait un scénariste dans la salle qui a entendu ce discours, et dans le discours, Tom Hanks remercie son prof de théâtre qui était homosexuel. Et un scénariste, donc, dans la salle, a entendu ça, et c'est imaginé, en fait, une histoire qui a donné après le film In and Out de Frank Oz.
Avec Kevin, ouais, Kline.
Il me semble, ouais,
ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Et en fait, c'est devenu, d'après ce que j'ai compris, après un message assez fort, justement pour pouvoir s'émanciper, justement, et pouvoir s'affirmer.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au commencement de la carrière de Tom Hanks, il était plutôt destiné à des seconds rôles. Quand il a commencé dans la série, parce qu'il a d'abord fait des séries, il a joué dans La Croisière s'amuse,
oui,
dans Happy Days.
Il a fait un peu de sitcom.
Oui, c'est là où il a rencontré Ron Howard, qu'il a ensuite casté pour jouer dans Splash.
D'ailleurs, au départ, il avait essayé pour un second rôle.
Oui,
et
voilà.
Il a trouvé tellement la performance intéressante qu'il l'a choisi pour le rôle principal.
Et je trouve, en fait, que c'est ce qui résume assez bien Tom Hanks. C'est-à-dire qu'au regard des canons du cinéma hollywoodien, Tom Hanks, sans talent, on pourrait le caster uniquement en second rôle. Et c'est lui qui a réussi, en fait, à dire « Bah non, je peux aussi être un premier rôle, mais en profitant presque de son physique de second rôle. » Est-ce qu'on peut analyser la carrière de Tom Hanks sous cet angle ?
Ouais, moi je trouve aussi que justement, c'est vrai que c'est sa performance en général qui a fait la différence malgré son physique, parce que avoir une telle carrière, je pense qu'il n'y a même pas de précédent, c'est-à-dire avoir deux Oscars, une carrière sur presque quatre décennies, tout le monde qui la double, alors que il ne joue pas sur ce côté assez physique que peuvent avoir plein de comédiens, même sur le côté un peu viril que peuvent avoir Pacino ou De Niro par exemple. C'est assez impressionnant, dans le sens où c'est vraiment la performance et l'identification qu'on peut se faire avec Tom Hanks qui fait que les gens vont le voir et veulent le voir au cinéma. Et ça, c'est très très rare. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent, en fait.
C'est justement, enfin, si je peux me permettre, il a ce côté, en fait, le bon samaritain, le good guy, un peu le voisin qu'on a envie qu'il vienne arroser nos plantes quand on est en vacances. C'est justement, enfin, c'est si on le suit en dehors en tant qu'acteur, c'est sur son compte Instagram, il prend en photo des gants tombés par terre. Quand il retrouve des cartes d'identité dans la rue, il fait tout pour les ramener. Et en fait, il est attractif pour ça. C'est vraiment genre le tonton qu'on pourrait avoir. Et je pense que tout le monde a envie de l'avoir près de soi et donc de voir ses films.
Alors, je suis entouré par des experts, mais évidemment, la question se pose, le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant l'acteur Tom Hanks. Saurez-vous y répondre ? Dans Forrest Gump, Forrest déclare que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Est-ce que ça veut dire que la vie, ça file le diabète, du cholestérol, des fois des cancers et ça fait grossir le cul ?
Complètement. C'est un très beau résumé de la vie. C'est beaucoup de problèmes pour très peu de joie.
Merci. Dans Seul au monde, Tom Hanks joue avec un ballon de volley nommé Wilson. Est-ce qu'on n'est pas sûr que le ballon, c'est pas Daniel D. Lewis qui aurait pris son rôle très au sérieux ? Il peut tout jouer, cet homme aussi.
C'est vrai.
Il y a un petit air dans le faciès, je trouve.
Moi, je me suis toujours dit, il l'a pas dit.
Coupe de cheveux.
Voilà. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, on le saura. Wilson, c'était Daniel D. Lewis.
C'est possible, parce qu'en plus, il a arrêté un moment sa carrière pour devenir cordonnier en Italie. Donc, tu vois, il y avait déjà du cuir avant l'histoire.
Il y avait du cuir.
Tout est lié.
Dans Toy Story, Tom Hanks joue un jouet qui parle. Mais dans cet univers, est-ce que les sextoys parlent aussi ? Ah, parce que moi, Sextoy Story, j'ai envie d'aller le voir.
Ah, mais moi aussi.
Est-ce que c'est pas déjà le nom d'un porno qui existe ?
Ah, bah certainement. Enfin, si tu penses à un titre de porno, c'est qu'il existe déjà.
C'est ça.
C'est la règle.
Il faut sauver Woody, il est coincé.
Merci pour ces réponses, vous êtes des puits de sagesse. Allez, offrons-nous un petit interlude musical.
tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin. Claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Sans blague, sans blague. Dis à quoi tu joues. Tu vas abîmer ton cœur. À trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage. Dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime. Que t'oublies de t'aimer toi-même. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite.
C'était Isia avec Trop Vite.
Frédéric Sigrist.
So far so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Go! Gump! What's your soul?
Quel est ton seul et unique but dans cette armée?
To do whatever you tell my drill sergeant.
Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur.
Damn it, Gump!
Putain de merde, Gump!
You're a goddamn genius.
T'es un putain de génie.
That's the most outstanding.
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue.
Goddamn IQ.
Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160.
You're a goddamn gifted.
T'es un putain de merde de deuxième classe doué, Gump.
Listen up, people.
Écoutez-moi, les mecs.
Now, for some reason, I fit in the army like one of them.
Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau.
Not really hard.
C'est pas très difficile.
You just make your bed real neat, remember to stand up straight.
Il faut juste faire son lit au carré, se tenir bien droit.
And always answer every question with yes, drill sergeant.
Et répondre à toutes les questions par oui, sergent instructeur.
Is that clear?
Oui, sergent instructeur.
C'était un extrait de Forrest Gump réalisé par Robert Zemeckis, un film qui date de 1994.
Alors si je peux me permettre, c'est très étrange, c'est la première fois que je découvre Forrest Gump en français et c'est donc Beetlejuice qui engueule Forrest Gump. C'est complètement déstabilisant ce qui vient de se passer
c'est
dans ma tête.
C'est la magie du doublage français.
C'est très très étrange, vraiment.
Il y a des crossovers qui disent pas leur nom.
Ah la vache.
Alors nous sommes toujours avec la monteuse et vidéaste de la chaîne La Manie du Cinéma, Mélanie Toubeau, Michael Guénam, le rédacteur en chef adjoint des fiches du cinéma et l'humour Maurice Dedo, co-créateur de l'histoire racontée par des chaussettes pour parler de Tom Hanks. Donc là, on vient d'entendre un extrait de Forrest Gump. Voici aussi un autre monument du cinéma américain, ce film. Mélanie Toubeau.
Ah, moi, personnellement, je pense que c'est un de mes préférés de Forrest Gump parce que il est juste tellement beau. C'est un conte. C'est un conte de fées moderne, entre guillemets, dans le sens que c'est quelqu'un qui se bat pour essayer de réussir et à qui il arrive des choses plus ou moins belles, mais qui va toujours au bout de ce qu'il veut. Rien que là, on entend la musique. Et en fait, rien que ça, c'est vraiment cet aspect boîte à musique qui fait un petit peu Madeleine de Proust. Quand on pense à Forrest Gump, on pense à quelque chose d'agréable avec des moments tristes, mais quelque chose de purement beau.
Et je sais que quand le film est sorti, la critique française particulièrement a beaucoup critiqué la naïveté qui entourait le film, en disant oui, enfin c'est quand même plein de bons sentiments, c'est une vision romancée de l'histoire des États-Unis. Mais quand on revoit le film, je trouve que c'est un drame, c'est une tragédie pour tous les personnages autour de Forrest, et c'est simplement parce que lui est simple, et parce qu'il n'a pas envie de se poser plus de questions que ça.
Il voit ça avec des yeux d'enfant.
Il voit ça avec des yeux naïfs, mais ce qui se passe autour de lui est très très cruel. Et je trouve que ça n'a pas du tout été cette comédie sentimentale qu'on a dénoncée en France, Dedo.
Non, puis en plus, au-delà du drama, c'est aussi un instantané d'une certaine Amérique sur plusieurs décennies. Donc les films chorales, les films fleuves de ce type-là, ils sont vraiment très intéressants pour ça. On voit à quoi correspond l'image d'une certaine Amérique post-Vietnam. On voit justement ensuite toute l'avancée à travers les rencontres qu'il a avec les présidents, et on le voit évoluer en même temps que son pays. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Après, la critique française qui critique la naïveté, critique française, hein, c'est Godard au début de la nouvelle vague, et c'est pas ce qui s'est fait de mieux, mais ça, c'est juste mon avis.
Et d'ailleurs, en parlant de critique, voilà, même si Tom Hanks, acteur, a enchaîné les succès, le Tom Hanks créateur a eu un peu plus de mal. C'est la séquence J'aime pas.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Tom Hanks, c'est une autre pub, c'est pour un laxatif, mais avant utilisation du laxatif.
That Thing You Do, c'est le premier long métrage de Tom Hanks. Des réactions dans le studio sur ce film? Non. Vous ne l'avez pas encore vu, je pense pas que vous irez.
Honnêtement, pour les gens de l'âge de Pierre, le mien et tout, soyons francs, ça n'a aucun intérêt. Ouais.
C'est un film, à mon avis, qui manque complètement de personnalité.
Je trouve que le film est désarmant de platitude.
Et c'est donc plutôt un film sur aujourd'hui et sur Tom Hanks, qui est un gentil garçon, et il fait un film très gentil.
Il est quand même assez fidèle à ce que je supposais être la vision d'Amérique de Tom Hanks, c'est-à-dire une vision quand même profondément réactionnaire, où c'est le mythe de la réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la réussite tout le temps. C'est-à-dire que bon, donc il y a un moment, ça devient un peu lassant.
Et la mise en scène, c'est gentillet et un peu rien, quoi.
C'est presque révisionniste, enfin, si on peut employer ce mot, mais c'est vrai qu'il y a un moment où la gentillesse devient quasiment abjecte.
Qui n'a pas eu le bonheur de voir le film de Tom Hanks ici?
Moi, j'ai eu ce bonheur.
Pour prendre cette première nouvelle, je l'ai trouvée idiote.
Quand on débute en littérature, il faut surtout éviter d'écrire des nouvelles, parce que c'est le genre qui ne pardonne pas.
Et mal écrite?
Ça supporte pas la médiocrité. Et là, il arrive à faire des nouvelles relativement courtes, qu'on trouve extrêmement longues et ennuyeuses.
Et caricaturales?
De banalité, de dialogues qui n'en finissent pas. De...
Oui. Je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un portrait de femme aussi mauvais, caricatural, antipathique. La manière dont il décrit les scènes d'amour, elle est vraiment, j'ose même pas vous dire, c'est idiot.
Le premier livre de Tom Hanks est pour certains le dernier.
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
Alors, quelque chose me dit que au masque, il n'aime pas trop Tom Hanks.
Non, moi, je pense que c'est surtout tous des enfants battus et qu'ils ont besoin d'aller voir des psys au bout d'un moment.
Ils aiment pas la vie.
Mais ils aiment rien. Et c'est que de la critique pure et dure, non-stop. C'est dur à la fin.
Non, mais en même temps, on a choisi les extraits, voilà, donc évidemment, c'est un petit peu à charge.
S'ils écoutent l'émission, ils ont pas dû aimer que j'aime pas Godard.
Non, mais c'est pas, je ne pense pas qu'ils écoutent l'émission. Sincèrement. Voilà, je pense qu'il faut pas aller aussi loin. Ils écoutent pas l'émission. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que Tom Hanks suscite, même encore quand on parle avec d'autres cinéphiles, des débats sur le fait qu'il est un, il y a des gens qui lui reprochent d'être un peu lisse, de toujours jouer des personnages très positifs, etc. Et c'est vrai que autant tout le monde se met d'accord sur Leonardo DiCaprio est un faiseur de composition de personnages, Daniel Day-Lewis, autant pour Tom Hanks, c'est pas le premier nom qui vient. Donc comment on explique ça?
À quel niveau?
Quand on parle d'acteurs polymorphes capables d'endosser des rôles, parce que entre Forrest Gump, entre Il faut sauver le soldat Ryan, Philadelphia, Big ou Les banlieusards, on a quand même une palette de jeux qui est incroyable, et pourtant il ne fait pas partie de ces acteurs à qui on dit « Ok, c'est un constructeur de personnages incroyables. »
Parce que ça joue, je pense, au fait qu'il est justement un physique qui n'est pas spécifiquement tranché et que du coup, on le voit comme un personnage lambda et comme un physique lambda. Donc du coup, on a moins de force à l'identifier en se disant « Ah, quel acteur et tout. » Mais justement, sa carrière parle pour lui au bout d'un moment, même quand il est... Effectivement, on est aussi tributaire de son physique. Donc, Tom Hanks, on a du mal à le voir en bad guy. C'est pour ça que, malgré le fait que Les Sentiers de la Perdition soit un film incroyable, sa performance est peut-être...
Faut dire aux auditeurs, c'est un film dans lequel il joue un assassin et irlandais, et donc forcément, c'est pas une figure positive.
Non, effectivement, non. Et c'est même plus un problème de jeu au bout d'un moment, c'est aussi un problème d'identification. On l'a tellement vu, justement, dans les personnages qui sont positifs, que c'est compliqué de le voir basculer ailleurs. Sachant qu'il a pas le physique adéquat. C'est-à-dire que plus ambivalent par rapport à ça. Mais malgré ça, il joue dans Cloud Atlas, où il compose six rôles différents. Donc on voit vraiment la palette de jeu dans tous les sens. Le fait que les gens ne le pensent pas directement comme un grand nom du jeu, moi je pense que ça joue effectivement à un physique qui fait qu'on ne l'identifie pas tout de suite dans un certain canon de beauté et que du coup ça joue en sa défaveur par rapport à ça. Mais l'acteur est immense et marquera beaucoup plus l'histoire que certains, je pense.
Et Michael Guénam, est-ce que le fait que Tom Hanks amène toujours une grosse part d'humanité et de véracité dans ses rôles n'explique pas aussi que finalement, il ne pourra jamais vraiment jouer un méchant tel qu'on se l'imagine dans la tête, parce que il amène une humanité qui fait qu'automatiquement on se dit ah bah c'est pas vraiment un méchant. C'est-à-dire il peut jouer un assassin, mais on ne le verra jamais comme un assassin parce que il amène cette humanité.
Mais très certainement, parce qu'on parlait des Sentiers de la Perdition. Les Sentiers de la Perdition, et aussi sur l'ambiguïté morale du personnage principal qu'incarne Tom Hanks, qui est accompagné de son fils, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il doit lui transmettre, qu'est-ce qu'il doit lui enseigner, et certainement pas ce métier. Donc, on a déjà de l'empathie pour ce personnage-là, parce qu'il essaye de retrouver la bonne voie pour son fils, en fait, pour lui faire hériter de quelque chose qui ne soit pas un métier de un univers de violence, en fait. Et sur les rôles de méchants, justement, il en a tenté quelques-uns, notamment Cloud Atlas, mais les Wachowski lui donnent un rôle, effectivement, où il y a un chemin de rédemption finalement, et donc on va certainement retrouver au final le Hanks qu'on a l'habitude de voir. Et plus récemment The Circle, où il joue un patron justement de multinationale très manipulateur, mais où justement Tom Hanks joue de sa propre image. Si les gens lui font confiance, si il est le visage d'une entreprise tentaculaire, c'est parce que on voit tout de suite Tom Hanks et on se dit voilà, cet homme, on peut lui faire confiance. Je pense que Hanks lui-même, en tant qu'acteur, quand il fait ses choix de carrière, il est conscient de l'image qu'il a et qu'il ne peut pas se permettre de faire comme Tom Cruise quand il tourne Collatéral, à savoir un tueur impitoyable. Lui-même se dit, en lisant le scénario, il y a quelque chose qui ne va pas marcher, le public ne va pas me reconnaître, le public ne va pas me suivre. Le public, effectivement, est en phase avec certains idéaux. Le public va le voir quand il joue chez Spielberg, parce que la collaboration entre Spielberg et lui, ce sont des grandes questions humanistes.
Et puis c'est une vraie intelligence, justement, d'avoir conscience de son registre et de ne pas vouloir, justement, à tout prix, jouer différents types de caractérisations sous prétexte que c'est une envie. On peut la comprendre, mais Danny DeVito ne sera jamais un jeune premier, et ce n'est pas grave, il a eu une carrière incroyable.
Tout à fait.
Et il n'y a pas de souci par rapport à ça, maintenant, qu'on veuille absolument... Si on juge un acteur sur le fait qu'il n'ait pas joué sur plusieurs registres, ce n'est pas se rendre compte à quel point... l'excellence, en tout cas, de cet homme.
Mélanie Thouveau, parmi les derniers films de Tom Hanks, les dernières interprétations qu'il a pu avoir au cinéma, laquelle vous a le plus marqué ?
Alors moi, je pense que c'est dans L'ombre de Marie, qui est sorti en 2014, il me semble, où il joue en fait le personnage de Walt Disney, qui essaye de convaincre l'autrice de Mary Poppins d'adapter son roman en film. Et je trouve qu'en fait, c'est... pour le coup, donc on disait le jeu d'interprétation, Tom Hanks aussi a joué beaucoup de personnages réels. Et donc le personnage de Sully, d'Arrête-moi si tu peux aussi.
Capitaine Phillips.
Voilà. Et en fait, dans L'ombre de Marie, il joue donc Walt Disney. Et vraiment, déjà, ce qui est assez fou, c'est qu'on met deux photos, une de Walt Disney, une de Tom Hanks, l'une à côté de l'autre. On y croirait presque, un peu comme Ben Kingsley et Georges Méliès. Et justement, en fait, je trouve que même dans le jeu, il a cette véracité. On sent que déjà, c'est un enfant américain, donc un enfant qui a vécu l'époque Walt Disney et donc qui le vit encore maintenant. Et je trouve déjà que c'est une très belle fable, une très belle histoire qui est racontée dans ce film, qui est très, très nostalgique. Et c'est un des plus beaux rôles que j'ai vu de Tom Hanks ces dernières années, en tout cas dans les années 2000.
Back home and
chez moi,
I tell people what I do.
Quand je dis aux gens ce que je fais comme métier, ils se disent «
Oh, that figures. »
Je m'en serais douté.
But over here, it's,
mais par ici, c'est...
A big,
un vrai...
Big mystery.
Un vrai mystère.
So I guess I've changed.
Alors il faut croire que j'ai changé.
Sometimes I wonder if I've changed.
Et il y a des fois où je me demande si j'ai changé au point
my wife is even gonna recognize
que même ma femme ne pourra pas me reconnaître quand je retournerai auprès d'elle.
And how I'll ever be able to...
Et comment est-ce que je pourrai jamais lui...
To tell her about days like today.
Lui parler de jours comme aujourd'hui.
Ah, Ryan.
Ryan.
I don't know anything about Ryan.
Je ne connais pas ce Ryan, j'en ai rien à foutre. Ce type ne signifie rien pour moi, c'est juste un nom. Mais si... Si aller à Ramel
et
me retrouver pour qu'il rentre chez lui, si ça me permet de retourner auprès de ma femme, bah alors... C'est ma mission.
C'était un extrait d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Et alors dans cet extrait, une fois de plus, moi quand j'ai préparé cette émission avec l'équipe de Blogosters, ce qui m'a frappé, c'est de voir le nombre de séquences, de scènes incroyables qu'on a pu écrire pour Tom Hanks. C'est-à-dire que ça, ce passage-là qu'on vient d'entendre, c'est le rêve d'une vie pour un acteur, une scène de genre. Or lui, il en a eu avec Steven Spielberg, avec Robert Zemeckis, avec Clint Eastwood, avec Sam Mendes, avec Frank Darabont, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il a aussi cette manière d'inspirer des réalisateurs de talent comme personne.
Ben oui, mais pour Seul au monde, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer un autre acteur que lui? Un autre acteur, justement, qui symbolise autant l'homme ordinaire, le voisin, effectivement, qui se crache sur une île, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'on imaginerait effectivement Tom Cruise? D'un coup, on n'est plus dans la même dimension humaine, en fait. Et effectivement, Spielberg, vu sa collaboration avec lui, Zemeckis, leur rencontre avec Forrest Gump. Je pense qu'il nourrit l'imaginaire des cinéastes et des scénaristes, justement, par sa capacité à incarner l'humain, le plus strictement humain, avec un registre souvent très sobre. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, on est avec un personnage essentiellement taiseux qui donne des ordres, et on est sur une structure chorale, puisqu'on suit toute l'escouade qui doit retrouver le soldat Ryan qui a perdu ses trois autres frères. Et effectivement, c'est ce qui se dégage de la relation entre ces soldats, c'est l'absurdité et la nécessité de cette mission. Justement, c'est une mère a perdu trois de ses enfants, elle ne peut pas perdre le quatrième. Et eux, ils vont devoir risquer leur vie pour ça. Et c'est vraiment Hanks qui incarne l'autorité dans cette mission et qui dégage une force, une confiance justement qu'il transmet à ses hommes en fait.
Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps Pentagon Papers où il se partage la fiche avec Meryl Streep, et en les voyant tous les deux, je me suis rendu compte que c'était un petit peu presque les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire des acteurs qui ont fait déjouer l'image qu'on se faisait d'un homme et d'une femme à Hollywood. C'est-à-dire juste des gens qui ont plié leur carrière à leur talent.
C'est vrai. C'est vrai que l'analogie est très bonne, parce que Meryl Streep, pour le coup, elle non plus n'est pas spécifiquement dans les canons de beauté d'Hollywood, et malgré ça, elle a, je crois que c'est l'actrice qui a eu le plus d'Oscars, et qui, bon voilà, oui. tout le monde s'agenouille sans aucune ambiguïté devant Meryl Streep.
Et a raison.
Et à raison, c'est vraiment une comédienne extraordinaire. Et effectivement, l'analogie est assez bonne. Comme quoi, il y a des exemples qui peuvent... Mais les exemples que tu donnes sont justement, malheureusement, des exceptions parmi des centaines et centaines de comédiens. Donc il faut que le talent soit à la hauteur de tout ça. Et ça prouve à quel point Tom Hanks l'est. Et d'ailleurs, tu disais qu'il inspirait des réalisateurs qui donnaient d'incroyables monologues. Et ce qui est fou, c'est qu'il inspire des réalisateurs qui sont oscarisés. Je ne sais même pas s'il y a un pareil de précédent entre Sam Mendes, Spielberg, Zemeckis, Ron Howard... et Clint Eastwood, tous ces gens-là ont été oscarisés pour meilleur réalisateur ou voire meilleur film. Donc je pense que personne ne s'y trompe, et c'est pas pour rien justement qu'il en est là, quoi.
Et puis il y a surtout un rôle dont on ne parle pas, et ça je ne peux pas terminer une émission sur Tom Hanks sans l'aborder.
Baraque à tout casser, bien sûr.
J'allais le dire. Non, je pensais plutôt à Woody.
Évidemment,
oui. Woody. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Toy Story 4 dernièrement, j'ai encore pleuré. Et c'est un dessin animé porté par la voix de Tom Hanks en VO. Ce qu'il a fait sur ses quatre films avec Tim Allen, son comparse qui joue Buzz Lightyear, Buzz l'éclair, c'est phénoménal aussi.
Et t'as raison de le dire, parce qu'effectivement, même sa voix, du coup, est reconnue à travers son interprétation, à travers justement cette franchise-là. Et c'est dire à quel point, d'ailleurs, Tom Hanks est incroyablement ancré dans la pop culture, vu que Blockbuster parle de ça. Il a un caméo dans le film des Simpsons,
oui.
Où justement, il est là pour faire une sorte de présentation de pub, et il est là, il est dans le paysage américain et il est même dans le paysage mondial en général maintenant. Donc ça prouve cette force et ça prouve qu'effectivement, qu'on le voit à l'écran ou qu'on l'entende, tout le monde a envie d'être avec lui.
Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter, j'ai parlé de Buzz l'éclair, Buzz Lightyear, et ben on va écouter Light Years de The National.
Transition.
You are a toy! You are the real Buzz Lightyear, you're an action figure! You are a child's plaything!
You are a sad, strange little man.
You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start. Didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. I thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. Could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you. And I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Light years away from you.
C'était The National, et maintenant, on joue.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Et aujourd'hui, on a Vincent au téléphone. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde.
Alors, vous êtes un grand fan de Tom Hanks?
Bah, c'est vrai que c'est un des acteurs qui m'a le plus marqué, quoi. Qui a vraiment un peu, je l'ai suivi durant mon enfance et...
Il y a un film en particulier qui vous a marqué?
On va dire que je pense que c'est Terminal que j'ai le plus vu. J'avais le DVD, j'ai dû le revoir plusieurs fois. Même si c'est pas le plus joyeux, je l'ai revu plusieurs fois chez moi.
D'accord. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu?
Oui, bien sûr.
Bon, alors je le répète rapidement quand même. Hein. Je pose 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon ?
Bon, on va essayer tout ça.
C'est parti. Première question. À part Spencer Tracy, Tom Hanks est le seul artiste américain à avoir fait quoi ? Réponse A, remporter 2 Oscars du meilleur acteur d'affilée. Réponse B, fait plus de 50 films en tant qu'acteur. Réponse C, présenter la cérémonie des Oscars 4 fois.
Je vais dire la réponse A.
Remporter 2 Oscars du meilleur acteur d'affilée. Eh bien, c'est une bonne réponse. En 93 pour Philadelphia et en 94 pour Forrest Gump. Question suivante. À chaque début d'un nouveau flashback de la vie de Forrest Gump, celui-ci porte un vêtement particulier. Lequel ?
Si je dis une réponse et que c'est pas bon, du coup, je perds.
Non, parce qu'après, vous pourrez faire appel à un joker.
Très bien. Est-ce que ce serait pas sa casquette, du coup ?
Non, ça n'est pas la casquette.
Mince.
Alors, vous faites appel à un joker ?
Oui, bah oui.
Alors, qui choisissez-vous ?
On va faire confiance à Mélanie.
Bon, Mélanie, je repose la question. À chaque début d'un nouveau flashback de la vie de Forrest Gump, celui-ci porte un vêtement particulier, lequel ?
C'est la chemise à carreaux, non ?
Bonne réponse ! Oh là là, c'est bien les jokers, hein ?
C'est évident, en plus.
Troisième question. De quel film est tirée cette chanson interprétée par Tom Hanks ? Alors, c'est un film de Noël ?
Que ce serait pas Big, du coup ?
Non, imaginez, ils ont droit, il fait froid.
Voilà. Ah, l'Orient Express, bien sûr.
Pas l'Orient Express, mais on n'est pas loin. Non. Le po-po-po.
Comme les ours.
Comme les ours, voilà.
Comme les ours.
Bon.
Alors là.
Bah, alors, il l'a dit, j'ai entendu son âme crier le Pôle Express. Voilà, vous pouvez remercier votre âme en fait, hein. Eh bien Vincent, vous avez gagné le livre Les sortilèges du blockbuster paru aux éditions Les Fiches du Cinéma.
C'est très gentil. Je vous remercie.
Merci à vous. À bientôt.
Merci, au revoir.
Eh bien voilà, cette émission touche à sa fin. Mélanie Toubeau, Michael Guenham, Dedo, je vous remercie. Si jamais on devait conseiller un film de Tom Hanks à voir pour des gens qui ne connaissent absolument pas cet acteur, parce qu'il en existe peut-être, lequel ? Rapidement.
C'est dur. Bah, allez-y, moi je dirais à la fin, comme ça j'ai le temps de réfléchir.
Je dirais Toubeau. Forrest Gump, mais au fond de moi quand même Dans l'ombre de Marie, parce que je l'aime beaucoup.
Dans l'ombre de Marie. D'accord. Michael Guenham ?
J'hésite entre Seul au monde et Philadelphia. C'est vraiment difficile de trancher.
Eh ben moi je dis Big, hein, comme ça on en a dit 5. Et Big, c'est un des films qui parle le mieux de l'enfance. Donc Big, en plus il y a du fantastique, c'est du mélange de genres, il y a de la comédie. Penny Marshall a fait un travail incroyable.
Et la scène du piano.
La scène du piano. Et alors moi je vais citer un film dont on parle peu, peut-être à raison, mais moi qui me fait toujours rire, c'est Les Banlieusards.
Parlons de Joe Dante.
Voilà, Joe Dante. je trouve vraiment ce film très très drôle.
C'est génial.
Et donc si vous voulez voir un jeune Tom Hanks au summum de sa comédie, regardez Les Banlieusards.
Il y a une très belle édition chez Carlotta pour les gens. C'est intéressant, DVD avec des tonnes de suppléments foncés.
Eh ben, je vous remercie une nouvelle fois pour avoir joué le jeu et avoir évoqué Tom Hanks pendant une heure dans Blockbuster. Pour les auditeurs, comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20, hein, ce qui nous permettra aussi de savoir ce qui continue de se passer du côté de la sacristie. Ou sur la page Facebook de l'émission et également le Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI.
Do you want a chocolate?
Vous voulez un chocolat ?
I could eat about a million and a half of these.
Je crois que je pourrais en manger 1,5 million.
My mom always said.
Maman disait toujours.
Life was like a box of chocolates.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
You never know what you're gonna get.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et on se retrouve demain pour parler des pharaons marseillais. On va parler du groupe IAM. Et après le journal, on a la chance de retrouver Nadia Dame. Bonjour.
Bonjour à tous.
Pour le débat de midi.
Oui.
Et on va s'intéresser à un sujet qui est assez peu présent dans la filmographie de Tom Hanks. On va parler des règles, des menstruations, du sang des femmes. C'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Il y a de plus en plus de livres, il y a des documentaires, il y a des blogs qui parlent de règles. C'est même un film sur les règles qui a remporté le prix du meilleur court-métrage documentaire aux derniers Oscars. Mais on entend toujours des blagues nulles sur les règles. On entend également beaucoup de mythes délirants sur les femmes qui feraient tourner la mayonnaise quand elles ont leurs règles. On va se demander avec mes invités quelle est la racine du mal et du tabou et comment en sortir. Et on attend donc les réactions sur le Twitter de l'émission.
Et il y a également la chanson de Blanche Gardin dans Nos Problemos, voilà, sur le sujet. Et j'en profite pour dire que je suis un grand fan de votre travail. Donc je suis ravi de faire ce passage.
Mais c'est très gentil, c'est tout à fait réciproque.
Voilà, bravo à vous. Merci.